Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
La première image d'introduction. On n'a pas encore terminé notre longue série sur les paraboles. On a pris quelques parenthèses, mais il en reste encore quelques-unes qui sont très intéressantes. Et ce matin, on va voir la parabole, comme vous le voyez là, peut-être à l'écran sur le PowerPoint, de Matthieu 13, 1 à 23, qui est la parabole des quatre terrains. Et ce qui est intéressant dans Matthieu 13, c'est que c'est la première d'une série de 8 paraboles qui semblent avoir été données dans un même bloc. Hein. On voit vers la fin du chapitre 13, là, ça dit que ensuite Jésus partit de là. Donc, il a enseigné toutes ces choses-là, puis il est parti. Très intéressant aussi de voir que ces 8 paraboles-là ont été regroupées par Matthieu et de voir le développement de l'évangile de Matthieu. Si on va dans les chapitres 5 à 7, on voit que c'est le sermon sur la montagne, puis Jésus, il donne beaucoup d'enseignements sur les valeurs. Quand moi je suis là, quand je suis le roi, voici les valeurs, hein, heureux les pauvres en esprit, c'est pas l'apparence. Ensuite, Jésus, après avoir enseigné, qui est dit avec autorité, il a démontré encore plus qui il était, puis d'établir son autorité, pas seulement en enseignant. Et là, dans les chapitres 8 à 9 de Matthieu, il fait une série de miracles et de guérisons. Donc, il enseigne, il fait des miracles. Et après tout ça, les pharisiens, au chapitre 12, et on connaît bien Matthieu 12, verset 32, qu'ils ont vu ça, c'était convaincant, puis ils ont dit, cet homme-là ne vient pas de Dieu, sa puissance lui vient de Satan. Et c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus a dit, peu importe le péché, il va être pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc, eux, il y avait toutes les preuves pour démontrer que Jésus était Dieu, puis l'accepter comme le Messie qui était envoyé au peuple sauveur. Mais eux, ils ont dit, ils l'ont rejeté. Et c'est à partir de là que Matthieu a dit, voici pourquoi on leur parle en parabole. Parce qu'ils ont eu toutes les chances d'écouter, mais ils n'ont pas voulu. Mais à vous, puis à ceux qui ont le cœur ouvert pour le royaume des cieux, eux, vous allez comprendre. Probablement que c'est cette explication-là que Jésus a donnée dans les versets 10 à 17 a été donnée en privé. On ne sait pas s'il a fait une pause ou si c'est après avoir enseigné la série de paraboles. Mais Matthieu, avec raison, a pris la liberté de mettre la discussion des versets 10 à 17 pour juste après la première parabole pour nous faciliter. Donc, on va se concentrer sur les versets 1 à 9 et ensuite, on va aller de 18 à 23. Donc, on va se concentrer sur l'enseignement de cette parabole en particulier. Sébastien, tu peux montrer à l'écran Matthieu 13, 4 à 9 qu'on va lire. Dans les versets 1 à 3, on dit que Jésus sort de la maison. Et cette maison-là, c'était un lieu habituel pour Jésus. Il ne mentionne pas, mais c'était à Capernaum et c'était la maison de la belle-mère de Pierre. C'était comme le point de ralliement des disciples quand il allait là. Et j'ai eu le plaisir d'aller en Israël et je suis allé à Capernaum, là où était le village, juste sur le bord de la mer. Et Jésus s'assoit au bord de la mer, mais voyant qu'il y a trop de monde, il décide de monter dans une barque. Et là, le son portait bien sur l'eau, probablement que c'était pas venteux. Et on va lire l'enseignement de Jésus, Matthieu 13, versets 4 à 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un grain 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus utilise un exemple très facile à comprendre pour tout le monde. Presque tout le monde à cette époque soit travaillait dans les champs ou encore était en contact direct avec les récoltes. C'était une réalité concrète, proche des gens. Et l'accent ici dans la parabole est mis sur les quatre sols. Le semeur sème à la main, il répand ça et la semence tombe à quatre endroits différents. Et Jean-Sébastien, on peut aller à la prochaine image où on voit les quatre sols. Et j'aimerais que vous preniez attention pour mémoriser, hein? Chemin, pierre, épine, bonne terre. Vous pouvez pas me répondre, mais j'aimerais que dans le foyer dans votre foyer ou encore à l'église que vous disiez en même temps chemin, pierre, épine, bonne terre. Et vous allez voir, on va se servir de ça pour mémoriser. Le premier terrain, c'est le long du chemin. Le deuxième terrain, c'est où dans le sol, il n'avait pas creux, tout de suite, c'était des pierres. L'autre, c'est les épines qui ont poussé. Et le quatrième, c'est la bonne terre. Donc, une dernière fois, chemin, pierre, épine, bonne terre. Donc, c'est mémorisé. On va y revenir constamment. Donc, Sébastien, on peut quitter le PowerPoint puis plus revenir dans l'image. Excellent. Donc, on commence avec le premier terrain, le long du chemin. Les chemins longeaient et entouraient les champs. Et c'était pas défini, là, coupé avec une grosse clôture frost comme on a dans notre monde moderne. Et quand il semait, il y avait vraiment une partie de la semence qui y tombait. Le sol, le long du chemin, était dur, compacté, hein, constamment foulé par les animaux, par les hommes qui y circulaient. Donc, une graine, une semence qui tombait à cet endroit-là, évidemment, n'avait pas la capacité de rentrer dans le sol. Les graines restaient à la surface du sol et les oiseaux devaient se faire un plaisir, devaient voir à l'avance le cultivateur qui mettait de la semence, il devait tout de suite être prêt pour aller les chercher. Donc, c'est le premier endroit. Le deuxième, les endroits pierreux. Hein? Pierreux, ce serait à pierre. Selon la composition du sol, il y a des endroits où il n'y avait que peu de terre en surface et en dessous de quelques pouces de terre, c'était de la pierre. Il faut être allé en Israël, comme je suis allé, pour savoir à quel point c'est un pays désertique rocailleux, un pays de montagnes, et les sols sans pierre étaient une denrée rare, et la plupart des bons sols sans pierre, c'est qu'ils avaient été travaillés par la main de l'homme pour dépierrer, pour enlever les pierres, pour le nettoyer. À la saison des pluies, au début, avec la fraîcheur du printemps, il n'y avait pas de problème. Hein? Une graine qui avait juste un petit peu de terre pouvait grandir, et même qu'elle allait grandir plus vite parce que en allant vers le sol, whoop, elle frappait le fond et là, elle allait vers en haut. Mais quand il n'y avait pas beaucoup de terre, quand le soleil se met à frapper, la saison sèche arrive, le sol ne contient pas beaucoup d'humidité, la plante va mourir parce que il y a pas d'eau du tout, elle a pas de racines en profondeur. Donc, on avait notre premier, vous en souvenez, chemin, pierre, troisième, parmi les épines. La semence tombe parmi les mauvaises herbes. Quand le sol a été préparé, peut-être pour les semences, peut-être qu'on voyait rien, c'était juste du sol, mais il y avait la graine de mauvaises herbes qui était là. Et quand la graine a commencé à pousser le bon grain, elle avait de la compagnie, elle était pas seule. Il y avait des épines. Et on sait que la mauvaise herbe, c'est très résistant et c'est très envahissant. On dirait qu'on comprend pas ça, mais c'est une constance dans la nature que les mauvaises herbes poussent toujours plus vite puis plus facilement que les bonnes. Et on sait aussi que la nature a horreur du vide, hein? Ne mettez rien sur de la terre vierge et vous allez vite avoir des visiteurs. L'année passée, j'ai mis beaucoup d'efforts pour refaire une partie de mon gazon et j'ai tout tué. Mais j'ai eu le malheur d'attendre trop avant de mettre du gazon et ça n'a pas été long que ça poussait puis j'avais des pissenlits, puis j'avais toutes sortes d'affaires. Ces épines-là empêchent la graine de grandir parce que elle prend le soleil, elle prend la nourriture et l'humidité du sol, mais surtout c'est que elle étouffe la plante. La plante est submergée. On a besoin de nettoyer, d'étirer. Donc si le sol est bon, mais il y a la présence nuisible de ces épines qui empêchent la croissance. Quel est notre quatrième terrain? Ah oui, la bonne terre. Un bon sol, les bonnes conditions, il n'y a pas d'obstacles. Il y a un sol profond, sans pierres, sans épines, et la semence a la possibilité de grandir, de venir à la maturité et de porter du fruit en quantité différente selon chaque grain. Et Jésus termine en disant, si vous pouvez le comprendre, eh bien, comprenez-la cette parabole. Et plusieurs ne comprenaient pas, justement parce que leur cœur n'était pas comme le quatrième sol. Plusieurs des auditeurs qui étaient là refusaient d'ouvrir leur cœur à Jésus pour croire. Et Jésus a eu pitié de ses disciples qui, eux, avaient un cœur ouvert, mais qui n'avaient pas toujours l'intelligence spirituelle. Et au verset 18, Jésus dit, « Vous donc qui avez ce privilège d'entendre et de voir ce que tant de gens, de prophètes du passé auraient aimé, eh bien, écoutez. » Dans Luc 10, il nous est dit que la semence, c'est la parole. Donc déjà, avec cette petite histoire qu'on aurait pu, comme croyant, interpréter de toutes sortes de façons, Jésus met ça clair. Dans Luc, il dit, la semence dans cette histoire-là, c'est la parole de Dieu qui est semée. Dans Marc, ça dit que le semeur qui sème, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, c'est l'évangile. Il annonce la bonne nouvelle du salut, il annonce la parole de Dieu. Et c'est une précision qui n'est pas dans Matthieu au début, mais ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des terrains, et en lisant le passage qu'on va lire dans quelques instants, notez-le, la parole va être nommée. Ça va être dit que quand il reçoit la parole, c'est mentionné que la semence, c'est la parole. Donc, Sébastien, on peut aller au passage à l'image de Matthieu 13, versets 18 à 23. On va lire l'explication, l'interprétation de Jésus et c'est tellement précieux d'avoir ça. On sait ce que ça veut dire. On va pas à gauche, à droite en se trompant. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Deuxième terrain. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend quoi? Qui entend la parole. Et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend, je me permets de préciser, la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, on se souvient de notre séquence de 4, chemin, pierre, épine et bonne terre. Donc, on va voir un peu l'interprétation et on va parler de notre compréhension de ce que Jésus dit. Comment on peut l'appliquer? Celui qui a reçu la semence le long du chemin, eh bien, on peut dire en bon québécois que ça, c'est celui qui ne veut rien savoir. La semence de la parole est faite, mais il la comprend pas. Et il veut pas faire d'effort pour comprendre. La raison pour ne pas la comprendre, avant tout, c'est un endurcissement du cœur. Comme le sol qui a été piétiné, là, ça laisse pas de chance à la semence, ben, cet endurcissement-là va empêcher la semence d'avoir son effet. Il y a plusieurs raisons. Ça peut être la peur, hein? Peur de se tromper, hein? Comment savoir si c'est vrai? Il y a tellement de choses. Oh non, non, je prends pas de chance. Oh, je ne sais pas si c'est la vérité. Ça peut être l'orgueil. Croire qu'on a raison. Hey, je ne changerai pas d'idée. J'ai 40, j'ai 50 ans. J'ai toujours cru ça. Il n'est pas question que quelqu'un vienne dire que ce que je crois, c'est pas vrai. Ça peut être l'ignorance, hein? Un rejet de la vérité, d'accepter les mensonges qu'on a reçus. On aime mieux pas venir à la lumière. Et ces gens-là qui sont dans le premier terrain, on les reconnaît bien par des réponses stéréotypées, là, des réponses... bien connu, hein? Ces gens-là vont nous dire, il n'y a pas de Dieu. Ensuite, après la mort, c'est fini. L'enfer, c'est sur la terre. Oh, vous êtes pas meilleur que moi. On va tous aller à la même place. Pense pas que je vais changer de religion. À cause de cet endurcissement-là, la parole est enlevée. Le diable lui dit que tout ça, c'est de la foutaise. Et l'homme, il se dépêche d'oublier ça. Hein? Le diable enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le cœur ici, c'est vraiment beau de le voir. C'est la place où la décision se fait. C'est le lieu de croissance de la parole. La parole n'a même pas le temps de faire un travail dans le cœur. Le cœur, il dit non tout de suite et s'est enlevé. Ces personnes ne démontrent que peu ou pas d'intérêt pour la parole. Le cœur est fermé, la parole ne peut pas commencer une œuvre. Ils ne sont pas touchés, il n'y a pas une réflexion qui se commence. La personne dit « je veux rien savoir » et rejette ça du revers de la main. Par expérience, personnellement, je dirais que quand on annonce la parole à des gens, je dirais que c'est malheureusement la majorité des gens à qui on parle du Seigneur. Ils écoutent, comprennent pas, puis il n'y a pas un réel intérêt, puis ils mettent ça de côté. De l'indifférence, du rejet, du mépris, ou ils donnent aucune valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de personnes-là? Premièrement, prier pour que Dieu ouvre leur cœur. Réaliser que c'est un travail spirituel. Prier pour que Dieu travaille leur cœur et le rende favorable en acceptant la parole, en voulant au moins réfléchir puis considérer. Et ce qu'on peut réaliser, c'est que la plupart d'entre nous, avant d'accepter le Seigneur, on a eu ce genre de cœur-là où quelqu'un nous en parle puis on met ça tout simplement de côté. Donc, la parole est semée, mais elle ne pénètre pas le cœur parce qu'il est endurci comme la terre d'un chemin et elle est enlevée rapidement. Première explication que Jésus nous donne. Le deuxième, vite comme ça, chemin ensuite, c'est... Oui, c'est ça, vous l'avez dit, les pierres. Les endroits pierreux. Et ça... Je dirais que c'est la profession de foi rapide. Cette personne entend l'Évangile et on est tellement content quand on rencontre une personne comme ça. Elle la reçoit rapidement. Peut-être à la première présentation, elle fait profession de foi, dit avoir accepté le Seigneur et là, il y a des émotions, il y a des pleurs, il y a une grande joie. Et je me reporte à il y a quelques décennies, on avait souvent des soirées d'évangélisation où on faisait des appels et les gens s'avançaient dans des grandes églises. Moi, j'ai vu souvent 10-20 personnes s'avancer. La personne s'avance, elle pleure, on parle avec, on prie, puis elle a accepté Jésus. Et dans la description, on a vu que la semence dans les endroits pierreux grandit plus vite au début que la semence ordinaire. Hein? Et ici, je me risquerais à dire que ces gens-là, il y a une plus grande joie puis il y a une plus grande émotion presque la normale. La personne est emballée puis nous autres, on est contents, c'est prometteur. Mais quelques jours après, souvent quand on essaie de les revoir, là, ils veulent plus rien savoir, ils ont changé d'idée et en général, ça se fait vite. Ils étaient tellement contents qu'ils en ont parlé à une personne de la famille qui manifeste son opposition, un compagnon de travail qui se moque de lui. Et ce qui est en jeu ici, c'est tribulation et persécution. Dès que ça arrive, dès qu'il y a un prix à payer, dès qu'il y a une difficulté, cette personne-là n'a pas de racines, elle abandonne tout. Elle se dit que ça vaut pas la peine. Cette personne a vu pour un instant la beauté de l'Évangile, la grandeur de l'amour de Jésus qui donne sa vie pour nous. Elle comprend le don de la vie éternelle. Elle veut le cadeau, l'assurance du salut. Mais elle ne veut pas devenir disciple de Jésus et porter fièrement son nom et devenir un ambassadeur qui souffre pour représenter son maître. Bien des fois, cette personne n'a pas accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Elle est encore dans ses péchés. Elle a vécu une expérience religieuse et émotionnelle, mais elle ne s'est pas repentie, n'a pas cru de tout son cœur. On peut dire que cette personne-là dit oui rapidement, mais qu'elle dit non rapidement également. Souvent, ce deuxième cœur-là, ce deuxième terrain spirituel n'a pas calculé le prix. Il n'a jamais même pensé qu'il pouvait y avoir un prix. Il peut arriver que la persécution vienne un peu plus tard. Hein. Si son environnement est chrétien, beaucoup d'amis chrétiens est entouré au début, mais quand elle va sortir tôt ou tard, il faut payer le prix. C'est une personne qui peut prendre des engagements, mais qui n'est pas capable de les tenir sans s'engager pour une cause. Donc ici, pas de persévérance. Une bonne soirée, un bon temps à l'église, un bon message, beaucoup d'amour, mais le lendemain, il y a la dure réalité. Ça démontre aussi, pour nous qui avons persévéré, comment le combat de la foi, il est réel. Hein? Il y a une réalité dans la persévérance de la foi et parfois notre foi est mise à rude épreuve. On a besoin de souffrir, de subir le mépris, le rejet pour notre foi. Cette situation-là, quand la personne renie son engagement, ne persévère pas, ça peut venir aussi de notre côté d'une mauvaise présentation de l'Évangile. Bien des fois, peut-être 10-15 ans, on pouvait dire facilement, on voulait mettre l'accent sur la grâce qu'on peut pas gagner le salut, puis on disait, c'est un cadeau, t'as rien à faire, t'as juste à l'accepter. Au lieu de ça, on aurait dû dire, oui, c'est un cadeau, mais veux-tu donner ta vie à Jésus? Veux-tu en faire ton maître? Il est mort pour moi, pour toi, pour te sauver. Veux-tu l'accepter et vivre pour lui? Donc, cette personne ne peut pas garder la parole dans son cœur, la faire grandir. Elle brûle devant les difficultés parce que son cœur n'est pas ferme. Troisième terrain, on a eu chemin, pierre, et là on est rendu à épine. Dans ce cas, le sol est bon. Il n'est pas trop dur, il n'y a pas de pierre. Mais on peut dire que la parole de Dieu tombe dans un bon cœur. Tous les espoirs sont permis. Sans être trop émotionnel, la personne reçoit la parole, écoute, démontre un intérêt, ça travaille fort, c'est encourageant. La parole est semée, mais quand vient le temps de porter du fruit, il y a de la compétition. Et la compétition ici, c'est les soucis du siècle. La séduction des richesses, les autres convoitises, on peut dire tout simplement que c'est le matérialisme. La personne, au fur et à mesure qu'elle avance dans les premières semaines de sa vie chrétienne, elle peut réaliser de dire, mais écoute, j'ai trop de choses à faire de la vie qui est devant moi, je veux vivre ma vie, je veux pas renoncer à tout ce que la vie peut m'offrir. Je sais que je peux être amené à m'éloigner du péché, de l'inconduite, de la malhonnêteté, du mensonge, puis ça me coûterait trop cher. Cette personne est le cas typique de celle qui comprend assez pour prendre une décision, mais qui comprend aussi assez pour savoir qu'il y a un renoncement et qu'il y a un désir de se détourner du péché, de mettre Dieu en premier et que parfois, il va avoir un coût qui va être matériel. On ne sera pas malhonnête. On est dans le temps des impôts, là, et plusieurs chrétiens, ton premier rapport d'impôt, ça va me coûter cher cette année parce que je vais être honnête en toute chose pour Dieu. Ici, c'est spécialement l'amour du monde et le matérialisme qui est l'obstacle. Le choix va se faire lorsque l'Évangile va lui demander de faire un choix. La parole va être étouffée par les soucis et les préoccupations mondaines. Quatrième interprétation que Jésus a donnée, c'est ce qui se passe dans le bon terrain. Et ici, c'est la vraie conversion. Ici, le cœur est prêt à laisser la parole de Dieu faire son œuvre pour l'amener au salut. Et c'est accompagné des fruits qui sont la manifestation de cette vie nouvelle. Et c'est merveilleux d'affirmer et de constater que c'est le cœur que vous avez eu, que j'ai eu, qu'on a eu, et qui nous a amené à persévérer puis à porter du fruit sur des années et des années. Et c'est encourageant de savoir que Dieu travaille encore dans le cœur des gens pour préparer des bons sols qui vont accepter sa parole et qui vont porter du fruit à long terme, qui vont persévérer, qui vont être stables. Et ce passage nous aide à comprendre ce qui se passe dans le cœur de ceux qui entendent la parole. Et ça doit nous encourager à évangéliser parce que Dieu y en prépare encore des cœurs comme ça. Sébastien, tu peux mettre la prochaine image, l'application des terrains à la vie de disciples. On peut dire que cette parabole-là, selon moi, s'applique davantage, premièrement, à ceux qui entendent la parole, ceux qui entendent l'Évangile pour le salut. Mais elle a vraiment un aspect fort pour nous enseigner en tant que chrétiens sur la nécessité de porter du fruit. Le fruit est même ce qui rassure nos cœurs devant Dieu. Et la parole de Dieu dans notre cœur doit porter du fruit et ça va être la manifestation de notre nouvelle vie. Et ce passage-là, on peut l'appliquer à dire, une fois que je suis sauvé, quelle sorte de cœur j'ai quand je lis la parole, quand je la reçois? Quelle sorte de cœur j'ai? J'aime beaucoup dans Matthieu 13, 19, qui dit que la parole est semée dans son cœur. Et nous, une fois qu'on est sauvé, quand on a la parole, qu'on l'entend dans des prédications, qu'on lit, peu importe la forme, même quand le Saint-Esprit nous rappelle juste en marchant des passages, on peut appliquer les quatre sortes de cœurs. Si on applique, on peut quitter le PowerPoint, Sébastien. Si on revient avec le premier, le premier, vous en souvenez, c'est le long du chemin. Il est dit que l'adversaire vient, enlève de leur cœur la parole, que c'est un sol endurci et pas susceptible de recevoir la parole. Un cœur dur, insensible, pas enseignable. Et même une fois qu'on est sauvé, il y a la possibilité que notre cœur se soit refermé, que se soit endurci. Et à ce moment-là, notre cœur est moins malléable. Il y a la parole, quand on entend la parole de Dieu, notre cœur, il se laisse pas toucher, la parole peut pas venir puis porter un fruit. si on a développé de l'amertume contre Dieu, on peut être secrètement fâché contre Dieu. Le résultat, on ne l'écoute pas. Quand la parole nous est donnée, quand on écoute un message, quand on lit, ça ne vient pas toucher. On peut avoir toutes sortes de raisons hein, pour ne plus écouter Dieu, pour ne plus avoir un cœur sensible. On peut dire « Dieu n'a pas écouté mes prières dans les choses les plus importantes. J'ai été déçu, je suis fâché contre Dieu. Donc, si Dieu m'a pas écouté, ben pourquoi j'écouterais sa parole? » On a besoin de s'assurer d'avoir toujours un cœur tendre, un cœur adouci. Que si on est fâché ou irrité ou un peu en colère contre Dieu, on a besoin de réaliser qu'on empêche le Saint-Esprit d'agir avec la parole de Dieu. Donc, est-ce qu'on a un cœur dur comme c'était le long du chemin? Application pour nous par rapport au fait qu'il y a des pierres, ça se peut qu'il n'y ait pas de place pour le refus de faire face aux difficultés et aux épreuves que Dieu peut permettre dans nos vies. Il y en a que ça les empêche de venir au Seigneur pour croire, pour être sauvés. Mais nous, on a besoin d'avoir des racines. Les racines d'un cœur engagé qui laisse la parole transformer nos vies. Et il peut arriver des choses dans nos vies qui fait que on voudra plus continuer à vivre pour Dieu, à être un disciple qui paye le prix. Et ici, on parle de persécution, de tribulation, de ce qu'on supporte pour Jésus, parce qu'on est un disciple de Jésus et on veut porter notre croix. Et peu importe le nombre d'années dans la vie chrétienne, on peut arriver, notre cœur peut arriver à un point où il dit là, j'en veux plus de ça. Ça, c'est des choses que je veux plus, la persécution, le mépris, fait qu'on peut se désengager de Jésus. Une des caractéristiques dans la parabole, c'est que aussitôt qu'il vient une persécution. Donc, pour ceux qui rejettent l'Évangile, c'est après un court temps. Mais nous, on peut être de ces chrétiens qui on a enduré, on a accepté pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, mais notre cœur, à un moment donné, peut arriver à un point où il dit, là, j'en peux plus. Là, notre cœur, il permet plus d'avoir des racines profondes qui vont nous permettre de passer à travers les persécutions. On dit, là, je suis tanné. La solution à ça, c'est de venir devant le Seigneur, de regarder comment lui, il a souffert pour nous. Et dans Pierre, ça dit toujours souffrance, gloire. Souffrance, gloire. Puis ça dit armez-vous de la même pensée. Jésus a souffert pour avoir la gloire au ciel. Jésus a souffert et ça lui a permis de recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous, la souffrance va faire partie. Mais dans la souffrance, quand on souffre pour Jésus, il y a vraiment cette consolation, il y a cet amour, il y a le Saint-Esprit qui vient, qui parle à notre esprit pour dire, regarde, Jésus, il te voit, puis il veut te consoler, puis il se réjouit tellement de voir ce que tu es prêt à endurer pour lui. On a besoin de s'armer de la même pensée. Il faut réaliser aussi que la persécution, le rejet, c'est des moments courts que Dieu nous en sort pour le soleil revient. Donc, peu importe le nombre d'années, on a besoin de réaliser qu'on ne veut pas que notre cœur ait juste un peu de bon sol puis qu'il y ait des pierres. On veut avoir un sol profond, faire des racines profondes. Troisième application en tant que chrétien, c'est le sol avec des épines. Et tantôt, c'était des choses qu'on ne voulait pas, la persécution. Ici, c'est ce que l'on veut, puis qu'on ne peut pas toujours avoir, en tout cas, pas tout de suite, hein. Et ici, on parle de la séduction de la richesse, les soucis du siècle, les plaisirs de la vie, le matérialisme. Et on est-tu à une époque où, au niveau de qualité de vie, de technologie, de choses qu'on peut acquérir, acheter, avoir, faire, sky is the limit, hein? On est à une époque où on peut en faire le plus possible. Et on a besoin de veiller sur notre cœur à ce que toutes ces choses-là ne montent pas pour étouffer ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. On ne veut pas laisser, on veut faire du ménage dans notre terre, dans notre cœur, pour ne pas laisser ces choses étouffer le fruit que Dieu veut produire. Notre cœur ne peut faire grandir les fruits de Dieu si, en même temps, il y a la convoitise, il y a la séduction des richesses qui y règne. Et en même temps, tu sais, je parlais au début que pour les épines, c'est des choses qu'on peut pas avoir. Moi, je crois que la plupart du temps, ce qu'on aimerait avoir humainement, l'attitude à avoir, c'est de le demander à Dieu. Dans Jacques, ça dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Le Seigneur, écoute, je sais que ce bateau-là ou ce chalet-là ou tel voyage, que j'en ai pas vraiment besoin. Puis écoute, ce serait vraiment du luxe. Mais Seigneur, je te mets ça entre les mains. Puis si jamais tu permets, ça va venir de toi. Des fois, il faut juste demander, attendre un peu. Puis Dieu, parfois, nous surprend. Puis on dit, Seigneur, j'étais prêt à renoncer à ça, mais tu me le donnes, puis Seigneur, je me sens un peu mal, mais merci, puis on y va. Réaliser qu'on est béni dans le Seigneur de toutes sortes de façons. Hein, la clé, c'est le contentement. Réaliser que notre cœur ne se nourrit pas de choses matérielles. Notre cœur, là, l'auto neuve de l'année, notre cœur, là, il nourrit pas. Peut-être que notre cœur, il y a un peu de joie pour une semaine, un mois, mais après ça, là, à part les paiements, on passe à autre chose. Notre cœur se nourrit d'amour, de paix, de joie, de relations bienfaisantes qu'on a avec nos proches. Donc, en tant que croyant, on a toute une application ici avec un sol qui fait des épines, qui empêche Dieu de produire les beaux fruits dans notre vie. Quatrième terre qu'on peut appliquer tellement merveilleusement, dans Luc 8, 15, dans la parabole qui est donnée, il dit, c'est celui qui reçoit la parole avec un cœur honnête, et bon. La parole nous touche, elle nous fait du bien, elle nous nourrit, elle a toute la liberté, elle a toute la place pour porter du fruit, un fruit qui est facile à porter. En fait, porter du fruit, c'est facile une fois que les conditions sont là, la parole de Dieu est mise dans notre cœur est bien disposé, il y a un peu d'eau dessus. On n'a rien à faire, c'est Jésus qui le produit. On est comme spectateur de ce que Dieu accomplit, comme une plante qu'on voit pousser. On dit, écoute, j'ai rien fait, je l'ai juste regardé. On peut dire que c'est une œuvre de grâce. Donc, que le Seigneur nous donne en tant que croyants qu'on continue à avoir cette bonne terre. Juste des conditions normal. Juste veiller à ce qu'il n'y ait pas des pierres qui s'ajoutent. juste veiller à ce qu'on soit pas en train de piétiner le sol, puis que on devient avec un cœur dur, d'être capable de dire, Seigneur, là, je veux adoucir mon cœur, je veux prendre une bêche là, puis aérer ce sol là qui a été soumis à toutes sortes de pressions. Réaliser aussi, Seigneur, que on est béni matériellement, on est béni dans notre style de vie, puis qu'on veut, on a le droit d'avoir des aspirations, mais de réaliser que le fait de tout avoir, ce qui est possible, ça rend pas heureux. Les vraies valeurs, autant pour les croyants que pour les non-croyants, ne sont pas là, mais c'est dans l'amour, la paix, la joie, puis le privilège de connaître notre Dieu. Donc, on va terminer en priant et... quelle belle parabole, quel privilège d'avoir ce passage dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus, oui, merci d'avoir toi-même enseigné cette merveilleuse parabole. Merci de nous l'avoir expliqué. Seigneur, visite notre cœur. Oui, notre cœur peut être tortueux. Notre cœur peut être endurci, notre cœur peut être divisé, on peut avoir un cœur qui est fâché ou qui s'est éloigné de toi. Seigneur Jésus, donne-nous d'avoir un cœur sensible. Sensible pour que ta parole qu'on met dans notre cœur, qu'il puisse avoir cette action, porter du fruit. Un fruit qui va venir de toi, un fruit qui, quand les conditions sont là, qui va venir tout seul, qu'on va juste dire, écoute, c'est Jésus qui le fait dans ma vie, c'est même pas dur pour moi, c'est lui qui l'accomplit. Seigneur Jésus, aussi on veut penser à ces gens à qui on annonce ta parole, qui ne te connaissent pas. Seigneur Jésus, change des cœurs endurcis, change des cœurs inconstants, change des cœurs séduits par le matérialisme en des cœurs qui ont une bonne terre, qui comprennent, qui croient, qui ont un cœur honnête et bon, comme il est dit dans ta parole, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Seigneur Jésus, encore une fois, merci d'avoir ouvert notre cœur pour qu'on croie en toi. C'est tellement un privilège, on n'était pas plus intelligent, on n'était pas meilleur que les autres. C'est toi qui as ouvert nos yeux. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole et fais qu'elle porte son effet, fais qu'elle porte du fruit dans nos vies. Amen.